Vous écoutez RTL.
RTL, Jean-Alphonse Richard.
Bonjour, très heureux de vous retrouver en ce début de samedi après-midi pour un nouveau numéro inédit de Confidentiel, une heure où nous partons à la rencontre d'une personnalité, tout ce qui a construit, façonné la célébrité, mais aussi les doutes, les peurs, les secrets qui accompagnent cette trajectoire. L'homme dont je vais vous raconter l'histoire a bouleversé la chanson française. Il a apporté à ce qu'on appelle souvent la variété un souffle, une modernité inconnue jusque-là. Tout pour la musique, il ne vivait effectivement que pour cela. Seule façon de fuir sans doute les malheurs qui ne cessaient de le rattraper. À la recherche de quelques mots d'amour, Confidentiel Michel Berger, c'est tout de suite sur RTL.
Confidentiel Michel Berger sur RTL.
Jean-Alphonse Richard.
Michel Berger n'a jamais été un homme tranquille. Toute sa vie, il garda le silence sur des drames intimes qui fatiguaient son cœur. En ne disant rien de ses angoisses, il espérait déjouer le mauvais sort, mais il se trompait.
Pour me comprendre, il faudrait savoir qui je suis. Pour me comprendre, il faudrait connaître la vie.
Michel Jean Amburger a vu le jour le 28 novembre 1947. Troisième enfant de l'un des pontes de la médecine, le professeur Jean Amburger, et d'une concertiste en vue, la pianiste Annette Haas, qui quelques jours avant d'accoucher était encore sur scène pour un récital de musique classique. Le petit Michel Amburger, qui sera un jour Michel Berger, grandit avec son frère Bernard et sa sœur Françoise, Franca, dans le décor silencieux des beaux quartiers et de la grande bourgeoisie parisienne. Famille qui vit dans l'ombre d'un père renommé, l'un des inventeurs de la néphrologie, à l'origine du premier rein artificiel français. Les patients viennent du monde entier pour consulter le professeur Amburger. Même des vedettes d'Hollywood comme Rita Hayworth défilent dans la salle d'attente. À l'âge exact de 5 ans et 2 mois, le monde qui entoure le futur Michel Berger s'écroule autour de lui. Son père est opéré en urgence à l'hôpital Necker, une pneumonie transformée en attaque foudroyante de tuberculose. Comme le professeur Amburger n'est pas n'importe qui, il demande à ne pas être anesthésié, exige de diriger lui-même sa propre opération. Il va survivre au bistouri, mais dès le lendemain, ce n'est plus le même homme. Sa mémoire a tout simplement effacé sa femme et ses enfants. Il ne les reconnaît plus. À partir de ce jour-là, ils seront, pour toujours, de parfaits étrangers à ses yeux. Le père de Michel Berger quitte ainsi, du jour au lendemain, le domicile familial. Amnésie toute particulière, puisqu'elle ne concerne que sa femme et ses enfants. Ce trou de mémoire ne l'empêchera pas de mener une glorieuse carrière, d'être reçu un jour à l'Académie française et de refaire sa vie avec sa secrétaire. Le médecin ne livrera jamais aucune explication. Son ex-épouse lui écrira toute sa vie une lettre par semaine sans jamais obtenir la moindre réponse.
Well, I'm gonna write a little letter, I'm gonna mail it to my local DJ. Yeah, it's a jumping little record, I want my jockey to play.
Le départ de son père est la première fracture dans la vie de Michel Berger. Il va passer son existence à courir après la silhouette de cet homme qui a renié sa famille, cherchant à comprendre, essayant de savoir pourquoi son père avait disparu. Le professeur Amburger ne lui fournira aucune réponse. Michel Berger gardera toujours pour lui ce secret de famille, cadenassant cette enfance quasi orpheline. « Je suis très agacé qu'on dise de qui je suis le fils », répondra-t-il un jour brutalement dans une émission télé. Véronique Sanson dira « Cet abandon l'avait retiré du monde, il vivait sur sa planète, il avait vraiment une revanche à prendre. »
Assis dans un fauteuil, un jour, je lui dirai, mon fils, il faut que tu écoutes. Voilà la pile de 33 tours. Et mon fils rira du rock'n'roll. Nos amours seront ridicules. Dans le passé, juste du point virgule, qui n'intéresseront plus personne. C'est bien que j'ai déjà tout compris. Je connais déjà la vie, toute la vie. Mais n'es-tu pas de mon avis? Et il me rendra responsable ce qui restera du présent. Peut-être que les idées folles mon fils rira du rock'n'roll. Et tant pis pour l'éternité, tant pis pour nos amours et nos idoles.
Confidentiel Michel Berger avec Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Michel Amburger, bientôt Michel Berger, grandit ainsi dans les jupes de sa mère, à qui il dédie des poèmes. Éducation rigoureuse, un peu guindée, parfaitement athée. Le petit Michel est un enfant sérieux et appliqué. Il joue facilement des deux pianos droits installés dans l'immense appartement du boulevard de Courcelles. Même s'il ne sera jamais un virtuose, il a le don d'assimiler toutes les influences musicales qu'il décrit et répertorie dans des cahiers d'écoliers. Gershwin, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis et surtout Ray Charles. Le chanteur confiera « Je passais des heures à l'écouter, c'était vraiment plus intéressant et swingant que Beethoven ou Mozart. Je n'ai plus jamais relu une note de musique. » À l'âge de 15 ans, Michel Amburger s'apprête à devenir définitivement Michel Berger. En ce début des années 60, avec deux copains du lycée Carnot, il rêve de grands espaces, de musique nouvelle, d'Amérique et d'Angleterre, rhythm and blues, rock and roll et Beatles. Une époque où tout est possible, où chaque semaine, un nouveau chanteur semble voir le jour. Pas question donc de passer à côté de l'annonce des disques Pathé Marconi dans France Soir qui stipule « Peut-être serez-vous l'idole de demain ». L'audition a lieu dans les studios de Boulogne-Billancourt. Le trio de fils de bonne famille auquel s'est joint un batteur ne flambe pas. Seul le plus chétif du groupe, le chanteur Michel Berger et ses cheveux frisés, retient ce jour-là l'attention. Michel Berger signe son premier contrat d'artiste de variété. Sa mère ne s'y est pas opposée, mais elle a exigé qu'il poursuive ses études jusqu'au bac. Le chanteur débutant a abandonné sans hésiter l'identité d'un père qui a choisi de l'ignorer pour prendre celle de Berger. La sonorité ne s'éloigne pas de son vrai patronyme et qui plus est, il habite à deux pas de la rue Georges Berger. Il dira « Je me suis alors lancé dans le yéyé ». Les premiers 45 tours de Michel Berger fleurent bon l'air du temps. Les ventes sont modestes. Ce yéyé est à mille lieues des mauvais garçons et des blousons noirs à la mode. Mais il a une bonne étoile. Désigné comme chouchou par Salut les copains. 10e au hit parade. Il apparaît dans la revue du même nom, photographié dans le Jura où il passe ses vacances. La légende de la photo mentionne « Il s'appelle Michel Berger, 16 ans, des yeux bruns et pétillants. » Dans seulement 2 ans, Michel Berger figurera sur une photo beaucoup plus célèbre, à nouveau signée Jean-Marie Perrier, celle des 45 nouveaux espoirs de la chanson française.
C'est toi la plus jolie, c'est ce qu'il t'a dit. Alors tu l'as suivi et tu n'as pas compris. Il manquait de toi, il ne pensait guère à toi. Il ne cherchait que ça, avoir une fille à son bras. Vous êtes toutes les mêmes. Oui, pourvu qu'on vous aime. Vous vous faites mener par le bout du nez. Vous vous conduisez comme de vrais bébés. Un autre t'a juré, tu es le plus intelligente. Mais peu t'importe qu'il soit sincère ou qu'il invente. Dans ce qu'il fallait, c'est qu'il s'occupe de toi. Et cela te suffisait pour que tu tombes dans ses bras. Vous êtes toutes les mêmes. Oui, pourvu qu'on vous aime. Vous faites mener par le bout du nez. Vous vous conduisez comme de vrais bébés. Ouais. Quand on dit à une fille qu'elle est la plus gentille, ce n'est pas toujours le début d'un amour. Alors fais attention, apprends à te défendre. Ne te laisse pas apprendre à ce jeu des garçons. Vous êtes toutes les mêmes.
Toutes les mêmes.
Et pourvu qu'on vous aime.
Oui, qu'on vous aime.
Vous vous faites mener par le bout du nez. Vous vous conduisez comme de vrais bébés. Toutes les mêmes.
Toutes les mêmes.
Pourvu qu'on vous aime.
Oui, qu'on vous aime.
Oh oui, toutes les mêmes. Vous êtes toutes les mêmes pourvu qu'on vous aime.
Confidentiel Michel Berger sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
L'enfance tourmentée de Michel Berger, les tout premiers pas, les balbutiements dans la chanson. Je reçois dans ce confidentiel Michel Berger Yves Bigot. Bonjour et bienvenue sur RTL.
Bonjour.
Yves Bigot, c'est un plaisir de vous avoir au téléphone de Confidentiel. Vous êtes journaliste, vous êtes directeur général de TV5 Monde. Vous avez à une époque dirigé les programmes de cette maison, RTL. Vous connaissez parfaitement le monde de la chanson et vous êtes l'auteur de ce livre « Quelque chose en nous » de Michel Berger chez Don Quichotte Éditions. Livre paru il y a quelques années. Pourquoi Yves Bigot, Michel Berger, ne voulait-il pas parler de son père ?
Il n'aimait pas du tout parler de ce sujet. Michel avait beaucoup de ressentiment vis-à-vis de ce père qui les avait abandonnés. Triple académicien, donc une immense sommité de la médecine française. Hein. C'est lui qui a inventé le concept de réanimation, dont on parle malheureusement beaucoup en ce moment à propos de la Covid-19. C'est lui aussi qui a inventé la néphrologie. Il y a eu une émission de télévision sur FR3 à l'époque, hein, qui était consacré au professeur Amburger, où on l'avait interrogé à propos de Michel. Il avait été absolument glacial à son sujet et Michel était très mal à l'aise avec ce sujet. Il disait qu'il n'aimait pas qu'on lui parle de son père, de la même manière que le professeur Amburger détestait qu'on lui demande s'il était bien le père de Michel Berger.
Alors cette mère concertiste qui apprend le piano à Michel Berger, et pourtant contrairement à ce qu'on pourrait croire, bien Michel Berger ne saura pas vraiment très bien jouer du piano.
Non, il joue comme un compositeur, pas comme un pianiste. C'est le cas de beaucoup de compositeurs. Hein. Michel a pris quelques cours de solfège, etc. Mais dès qu'il a entendu Ray Charles, il a trouvé que c'était beaucoup plus intéressant que le classique. Et il est devenu simplement un pianiste pour composer ses chansons et pour s'accompagner lui-même. Il disait n'avoir été décomplexé que lorsque France Gall et lui ont enregistré avec Elton John et que Elton John lui avait dit qu'il était pas mal au piano. Et donc il s'est dit, ah ben finalement c'est que je suis pas si mauvais que ça, parce que la blague des musiciens de studio avec lesquels Michel vivait et travaillait quasi quotidiennement, c'était de dire qu'il jouait du piano avec des moufles.
Parlez-nous Yves Bigot de cette bande d'amis avec qui il décide, pour s'amuser hein, il faut bien le dire, de se lancer dans la musique et dans la chanson.
Oui, alors ils sont très jeunes, hein. C'est l'époque, c'est l'époque des pionniers du rock et du début des yéyés. Donc tous ces jeunes gens ont 14-15 ans, hein, avec deux amis de lycée. Ils passent une audition. Le directeur artistique des Chats Sauvages trouve que Michel a quelque chose d'intéressant. Premier contrat, on est en 1963, hein, il a tout juste 15 ans, avec Amour et Soda. Donc son premier 45 tours, Parole de Jean Brousse. Musique de Michel Berger, premier succès grâce à l'émission Salut les copains.
RTL.
Confidentiel Michel Berger.
Jean-Alphonse Richard.
Michel Berger a 19 ans. Il a tenu parole et a passé son bac. En 3 ans, il est passé à la télé, l'émission Musicorama, où il a croisé pour la première fois et sans vraiment la voir, une débutante tout aussi timide que lui, France Gall. Berger est également passé en avant-première à l'Olympia, deux chansons dans le brouhaha. Il commence à faire partie du paysage de la variété, même s'il ne fait pas vraiment le poids face aux Dutron et Paul Naref, et n'arrive pas à la cheville des Américains qui règnent sur la nouvelle pop d'Eric Clapton à Bob Dylan. Sans prévenir, Michel Berger décide alors d'arrêter sa carrière de chanteur. « Je ne savais pas exactement où j'allais, je me cherchais », dira-t-il. Il rejoint l'équipe des très jeunes directeurs artistiques de la maison Pathé Marconi, à la fois détecteur de talent et auteur-compositeur. Berger écrit les premiers succès d'une armée de débutantes, de Cécile Valéry à Isabelle de Funès. Il fait même chanter Bourville et offre à Jean-François Michael le slow de l'été 69, 5 millions de disques vendus. Grâce au succès, Michel Berger s'est acheté une Triumph décapotable. Seule extravagance pour ce jeune homme qui trace facilement sa route dans les années pop, mais reste de loin le plus réservé des auteurs du moment. Un physique de gringalet, des pullovers sages, une vie rangée exclusivement dédiée à la musique. Chaque jour à 16h, sa mère lui apporte son goûter au bureau. Jamais aucun excès, ni cigarette, ni alcool, ni drogue et pas beaucoup de drague. Sa petite amie du moment est une chanteuse qui s'appelle Vanina Michel. La romance va durer un an. Ils se sont rencontrés alors qu'il sortait d'une hépatite C. Elle l'a trouvé sensible et touchant. Cette très jolie blonde triomphe alors dans la comédie musicale R. En assistant à ce spectacle qui sacre les années hippies, Michel Berger s'est juré qu'il écrirait lui aussi un jour une comédie musicale. Juste avant Vanina, une autre blonde est passée brièvement dans la vie de Michel Berger. Une certaine Véronique Sanson, 2 ans de moins que lui, elle aussi fille de très bonne famille. Il a fait sa connaissance alors qu'elle se lançait dans la chanson avec sa sœur Violaine et un ami, François Bernheim. Un groupe baptisé les Roches-Martin. Berger a tout de suite retenu la voix, l'allure et la puissance de Véronique. Un premier flirt, puis des retrouvailles pour une authentique histoire d'amour qui va tout changer dans la vie de Michel Berger.
À toutes choses gaies, choses tristes, le printemps est là. Plus question de faire des pistes, plus question de whisky soda.
En cette fin des années 60, Michel Berger et Véronique Sanson sont devenus inséparables. Il produit ses premières chansons et joue les Pygmalions. Un couple aux antipodes, autant il est sérieux, précis, méthodique, autant elle est désordonnée, fantaisiste et fêtarde. Malgré leurs différences, ils sont collés l'un à l'autre, frères et sœurs, jumeaux ou clones, comme on voudra. Même leurs écritures se ressemblent, au point de ne pas savoir qui a tenu la plume. Véronique Sanson dira « Nous étions le miroir l'un de l'autre, ce que j'écrivais, il aurait pu l'écrire, et inversement. » Véronique Sanson est à cette époque la première et sans doute la seule personne à partager les secrets les plus intimes de Michel Berger. L'abandon de son père qui continue à le troubler, cet homme invisible mais omniprésent dans sa vie que le chanteur considère le plus souvent comme un oiseau de mauvais augure. La légende dit que le professeur Amburger se serait manifesté lors des premiers succès de son fils pour l'informer que Bernard, son frère architecte, souffrait d'une sclérose en plaques et que celle-ci, tôt ou tard, finirait par l'emporter. Vraie ou fausse histoire, Michel Berger ne cessera dès lors d'être confronté au spectre inexorable de la maladie qui va emporter tous ceux qu'il aime sans qu'il ne puisse faire quoi que ce soit pour les sauver.
Une nuit, je m'endors avec lui.
Le 24 mars 1972, Véronique Sanson sort son premier album, Amoureuse. Les chansons passent à la radio. Elles seront un jour célèbres, mais pour le moment, le succès est timide et la critique parfois acide. Michel Berger est déçu, amer, en colère. Il ne plaisantera de ce demi-succès que bien plus tard en disant « De Véronique, on disait qu'elle chantait comme une chèvre, mais comme j'étais le berger, ça tombait bien. » Michel Berger ne sait pas à ce moment-là qu'il vit ses dernières semaines avec Véronique Sanson, persuadé que le chemin sera encore long avec cette femme dont il croit tout connaître. Un talent sans limite, mais aussi le goût immodéré de la fête et un penchant pour l'alcool. Berger ne peut pas mettre en cage Sanson, mais il ne la quitte pas des yeux, la fait travailler sans relâche, la pousse parfois dans ses ultimes retranchements. Ils ont prévu de se marier, sans savoir que la chanteuse, à cause d'une rencontre, ne lui appartient déjà plus.
Je n'ai besoin de personne.
Un matin du mois d'octobre 1972, Michel Berger et Véronique Sanson choisissent la moquette qu'ils vont poser dans leur nouvel appartement, vide et blanc, rue de Prony à Paris. La chanteuse s'absente pour, dit-elle, aller acheter des cigarettes. Elle ne reviendra pas, partie à New York avec le musicien américain Stephen Stills dont elle est tombée en secret éperdument amoureuse. Michel Berger s'enferme alors dans le chagrin, tout seul dans l'appartement de la rue de Prony. En 2 jours, il perd 5 kilos, rongé par des idées noires qui inquiètent ses amis. Le chanteur dira « Je n'ai pas eu beaucoup d'amour, Véronique a été la première et la plus importante ». Il ne fera jamais le deuil de cet amour unique. Toute sa vie, Berger ne cessera d'adresser à Sanson des messages à travers les paroles de ses chansons. Un an après la rupture, il recommence à chanter. Il sort son premier album, dont la pochette représente un cœur coupé en deux par un point d'interrogation et dans lequel il demande à son amour de l'attendre.
Attends-moi, laisse faire le temps. Laisse-lui le choix. Et si tu m'oublies, le grand amour, c'est pour une autre fois. Attends-moi, plonge tout entière dans ta solitude. Et si l'habitude vient s'y installer, il faut se quitter. Demain, ce sera peut-être l'amour à Bali, comme on en rêvait. Demain, on dansera peut-être le flamenco fou dont tu me parlais, dont tu me parlais. Attends-moi, laisse le silence pénétrer en toi. L'amour à Bali, comme on en rêvait. Demain, on dansera peut-être le flamenco fou dont tu me parlais, dont tu me parlais. Attends-moi, je saurai bientôt la vie comme elle veut.
Confidentiel Michel Berger, Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Michel Berger, les années Véronique Sanson, là où il forge finalement son image de Pygmalion, de découvreur de talent. Avec nous au téléphone de Confidentiel pour parler de Michel Berger, le journaliste qui le connaît le mieux, Yves Bigot. Yves Bigot, pourquoi Michel Berger décide-t-il d'arrêter la chanson à 19 ans alors qu'il a une vraie carte à jouer ?
Oui, il a enregistré une série de 7 45 tours et il découvre les États-Unis pour la première fois. Il part en voyage là-bas. Il s'aperçoit évidemment que la musique américaine n'a pas grand-chose à voir avec le yéyé français et le monde du show business dans lequel il évolue. Et il se rend compte que le petit chanteur yéyé qu'il a été jusque-là n'est pas du tout de taille à lutter avec Bob Dylan, Pink Floyd, avec Jefferson Airplane, le Grateful Dead, tous les grands groupes qui émerge à cette époque et il décide d'arrêter la compétition. C'est dans la personnalité de Michel Berger, c'est qu'il a toujours eu une ambition qui était planétaire. Ça ne l'intéresse pas beaucoup d'avoir un petit succès en France. Il a toujours voulu avoir le monde entier et ceux qui étaient les meilleurs comme référence. C'est pour ça en fait qu'il va rendre les armes.
Pourquoi ce flash absolu, cette alchimie, comme dirait l'ancien directeur de Warner, Bernard de Bosson? Cette osmose entre Michel Berger et Véronique Sanson.
Bon, on a l'impression qu'ils auraient pu être frères et sœurs d'une certaine façon. Ils viennent tous les deux de milieux très bourgeois. Hein, donc Michel, on l'a vu, hein, vient de la haute société protestante parisienne. Véronique Sanson, elle est la fille d'une très grande résistante et d'un député, René Sanson. Ils sont pianistes tous les deux. Ils aiment tous les deux Ray Charles et ils sont tous les deux fous des Beatles. Ils composent. Et ils ont tous les deux ce désir de faire sonner le français sur la musique comme les Anglais et les Américains font sonner leur propre langue. Et selon le principe de la thermodynamique, hein, qui veut que quand on fait des choses et qu'on partage beaucoup de choses, et théoriquement, ça crée une chaleur et ça attire deux corps l'un vers l'autre. Ça va faire qu'ils ne vont pas rester que frères et sœurs.
Yves Bigot, Michel Berger serait-il devenu Michel Berger sans le départ de Véronique Sanson ?
Oui, bien sûr. D'abord parce qu'il avait déjà enregistré son premier album avant le départ de Véronique. Après, est-ce que la compétition d'une certaine façon, qui va se développer avec Véronique et le dialogue qu'ils vont entretenir d'album à album entre Paris, où est resté Michel, et l'ouest des États-Unis, où s'est installée Véronique Sanson avec Stephen Stills, donc qu'elle a épousé. C'est sûr que ça a dû mettre beaucoup de piment et d'incitation dans le travail de Michel Berger. L'aiguillon qu'elle lui a fourni, voilà, sans doute lui a peut-être permis de le révéler avec plus d'acuité.
Confidentiel Michel Berger sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Michel Berger a 26 ans. Les deux années passées avec Véronique Sanson ont laissé une balafre qui ne cicatrise pas. C'est le moment où une autre chanteuse, blonde elle aussi, rêve de travailler avec celui qui vient de relancer la carrière de Françoise Hardy. France Gall déteste son image d'éternelle collégienne et veut en changer. Berger n'a aucune envie d'écrire pour elle, mais après une rencontre dans l'appartement désespérément vide de la rue de Prony, il s'est retrouvé sous le charme. Dans quelques mois, il dira de France Gall « Quel talent sous-exploité ! J'avais peur d'écrire pour elle, mais c'est une interprète fantastique. » Entre Michel Berger et France Gall, une seule chanson va suffire à sceller un pacte amoureux.
Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais tout bas. Une déclaration.
Avec France Gall, Michel Berger retrouve la vie. Le couple s'installe dans les beaux quartiers de Paris, villa de beau séjour, une maison en bois, rouge et blanche. Ici, derrière son piano, Michel Berger façonne la nouvelle France Gall. « Si j'imaginais que j'étais une fille, dit-il, je serais comme elle. Elle me donne cette impression bizarre que c'est moi, alors que c'est elle. » Les succès s'enchaînent, France Gall a gagné son pari, avec l'homme qu'elle a conquis, elle ne sera plus jamais le gentil bébé requin de la chanson française. Le 22 juin 1976, Michel Berger et France Gall se marient à la mairie du 16e arrondissement de Paris. Deux ans plus tard, naît une petite Pauline. Tout va bien pour le compositeur-chanteur qui se noie dans le travail. Il devient l'alchimiste de la chanson. Toutes les mélodies qu'il fabrique se changent en or pur. Berger est souvent épuisé, mais heureux. Deux ans de labeur pour monter sa comédie musicale Starmania. France Gall triomphe. Elton John en personne réclame le couple pour enregistrer avec eux à Los Angeles. Et même quand Michel Berger écrit pour lui-même, les ventes battent des records. La réussite est totale.
Elle passe ses nuits sans dormir, à gâcher son bel avenir. La copie du pianiste.
Michel Berger vit à 100 à l'heure et court après le temps, ignorant ou plutôt ne voulant pas savoir que son cœur a du mal à suivre ce rythme frénétique. Il lui arrive d'avoir des coups de pompe, des douleurs, mais n'en parle à personne. Il préfère se réfugier avec France, leur fille Pauline et le petit Raphaël, né en 1981, dans la maison de Honfleur qui leur sert de refuge. Après sa mort, on découvrira plusieurs lettres de son père lui recommandant de consulter tel ou tel cardiologue. Le chanteur les avait ignorées, préférant mettre sa santé de côté, laissant le destin décider à sa place. Michel Berger, travailleur boulimique et perfectionniste, est rongé par l'angoisse de mal faire, mais aussi par ses démons personnels. Chanteur tourmenté, effrayé par les malheurs qui surgissent en ces années 80. Le 26 janvier 1982, la prédiction de son père se réalise. Son frère, architecte Bernard, 41 ans, meurt après avoir conçu les décors du dernier spectacle de France Gall. Michel Berger le veillait depuis des jours à l'hôpital Necker. Il est désormais KO. Il perd l'homme qui avait remplacé son père. Quatre ans plus tard, Michel Berger éprouvera une détresse identique en apprenant la mort de Daniel Balavoine, le rocker de Starmania, son contraire, mais son meilleur ami dans la vie.
Thank you.
Essentiel, Michel Berger.
Jean-Alphonse Richard.
Malgré la lumière et les triomphes, Michel Berger a appris que la vie est fragile, cruelle, et qu'il ne parviendra pas à infléchir le cours du destin. Pauline, sa fille, a commencé à tousser à l'âge de 4 ans. Le diagnostic tombe et il écrase le chanteur. Pauline est atteinte de mucoviscidose, une maladie génétique qui attaque les poumons. Pas de véritable traitement, l'issue est généralement fatale.
Tu as le son de ma voix.
Michel Berger et France Gall s'enferment alors une nouvelle fois dans le secret. Pour Pauline, personne ne saura, hormis quelques proches qui jurent de ne rien dire. Le chanteur a déjà vu partir son frère. Désormais, c'est la vie de sa fille qui lui échappe, prêt à tout pour la sauver, même à rencontrer son père qu'il n'aime pas, histoire d'obtenir des conseils, avoir de l'aide. L'entrevue aura bien lieu. Le grand médecin ne pourra rien faire pour Pauline si ce n'est confirmer l'évolution inexorable de la maladie. Michel Berger ne reverra plus son père que par intermittence. Le professeur mourra en 1992, 6 mois seulement avant le chanteur. Dans son testament, il ne mentionnera pas une seule fois sa première famille, les noms de sa première épouse et de ses enfants, comme si ceux-ci n'avaient jamais existé. Quel salaud, s'exclamera ce jour-là Michel Berger.
On se regarde tous avec indifférence.
Est-ce à cause de la maladie de Pauline, ce gouffre dont on ne revient pas, comme dira France Gall, que Michel Berger n'est plus tout à fait le même en ces années 80. Il fait 1000 choses, s'éreinte derrière son piano, court de rendez-vous en rendez-vous, mais il est souvent absent, ailleurs. Berger compose une deuxième comédie musicale, La Légende de Jimmy, qui n'aura pas l'éclat de Starmania et ne battra pas des records d'entrée. Il n'écrit désormais plus guère que pour France Gall ou Johnny Hallyday. Grâce à Michel Berger, Johnny a retrouvé un deuxième souffle. Les deux hommes s'aiment beaucoup, refont souvent le monde jusqu'à 5 heures du matin dans la maison de Normandie. Johnny dira « Michel était un écorché vif, un angoissé qui se posait et nous posait toutes les questions possibles. »
Il y a des flatcases qui traînent sur scène et on démonte les projecteurs.
Rien ne transpire des angoisses, des terreurs et des doutes qui assaillent en permanence Michel Berger. En cette fin des années 80, le couple qu'il forme avec France Gall est toujours là. Personne ne peut en connaître ni l'usure ni la lassitude. Berger et Gall n'ont jamais changé leurs habitudes. Ils fuient les séances photos et ne parlent jamais de leur vie privée. Michel déteste qu'on approche France. Et France protège jalousement Michel des incursions extérieures. Quand les journaux diront que Michel Berger et Véronique Sanson se sont toujours parlé par chansons interposées, elle répondra « Je mets quiconque au défi de trouver des messages dans ses textes. »
Quand nos regrets viendront danser.
Pourquoi d'ailleurs rechercher ce qui pourrait clocher entre Berger et Gall qui, en ce mois de juin 1992, pour la toute première fois, chantent en duo. À la quarantaine, ils affichent l'image fraîche d'un couple éternellement jeune et amoureux. Derrière le rideau de la célébrité, pourtant, rien ne semble idyllique. Michel Berger aurait le projet de se lancer dans une carrière américaine à Santa Monica, en Californie, et d'y rejoindre une mannequin allemande se destinant à une carrière de chanteuse, Béatrice Grimm. France Gall rejettera toujours ses allégations, gardant un silence total sur les derniers mois de leur histoire.
Un dimanche, au bord de l'eau.
Personne ne saura si Michel Berger rêvait d'Amérique et de nouvelles vies. Le 1er août 1992, il est avec France dans la maison de Ramatuel, dans la presqu'île de Saint-Tropez. Le couple donne une interview. Le chanteur apparaît détendu et souriant. Il dit n'avoir plus beaucoup envie d'écrire des chansons, mais affirme avoir 1000 projets, composer un nouvel opéra rock et se lancer dans le cinéma. Le lendemain, dimanche 2 août, dans l'après-midi, Michel Berger pose sa main sous son cœur après une partie de tennis. Ce n'est pas la première fois qu'il ressent ce serrement qui finit toujours par s'apaiser. Mais celui-ci, cette fois, ne passe pas. Dans la soirée, Michel Berger, 44 ans, s'effondre. Il avait depuis toujours le pressentiment qu'il ne vivrait pas vieux. Ces derniers temps, il était surtout hanté par l'idée de mourir après sa petite Pauline. Mais il part avant, sa fille fermera les yeux 5 ans après lui. Elle repose avec son père chanteur au cimetière de Montmartre, sous une verrière où, au beau jour, entrent les rayons du soleil.
Y a tant de vagues et de fumée qu'on n'arrive plus à distinguer le blanc du noir et l'énergie du désespoir. Le téléphone pourra sonner. Il n'y aura plus d'abonnés et plus d'idées que le silence pour respirer, recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps, tout seul avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant. Je m'en irai courir dans le paradis blanc, loin des regards de haine et des combats. Retrouver les baleines, parler aux poissons d'argent, comme avant. Il y a tant de vagues et tant d'idées. Mes claviers seront usés d'avoir osé toujours vouloir tout essayer et recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc. On s'amuse dès le soleil levant et joue en nous montrant ce que c'est d'être vivant. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc où l'air reste si pur qu'on se baigne dedans à jouer avec le vent.
Chaque semaine, RTL.fr vous propose des programmes inédits accessibles uniquement en podcast. Découvrez par exemple Tilt.
Bonjour, ici Sylvain Zimmermann. Pour eux, un jour, ça a fait tilt. Ils ont eu le déclic, celui qui leur a permis d'adopter un mode de vie beaucoup plus responsable, meilleur pour la planète. Ils témoignent dans Tilt, un tout nouveau podcast RTL à découvrir sans plus tarder.
Tilt, un podcast RTL à écouter gratuitement sur RTL.fr. Confidentiel Michel Berger sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Le temps des malheurs et d'une fin brutale pour Michel Berger, foudroyé au milieu de ses 40 ans. Yves Bigot nous accompagne depuis près d'une heure pour nous parler de Michel Berger. On connaît les chansons que Michel Berger a données à France Gall, mais qu'a apporté France Gall à Michel Berger ?
La notoriété immense, parce que c'est à travers les chansons qu'il composait pour France Gall que les chansons et le talent de Michel Berger ont été vraiment connus du grand public. Quand lui enregistrait un disque, il en vendait quelques milliers, et là où France en vendait plusieurs millions. Et puis elle lui a sans doute donné beaucoup, beaucoup de confiance en lui. France, d'une certaine façon, elle agissait un peu comme le manager de Michel Berger. Et puis elle l'a beaucoup inspiré, même si son inspiration se partageait vraisemblablement entre Véronique Sanson, entre France Gall, et puis son univers et son intériorité personnelle.
Vous aviez révélé dans votre livre sur Michel Berger, Yves Bigot, cette liaison avant sa mort entre le chanteur et Béatrice Grimm. Est-ce que Michel Berger était vraiment prêt à s'engager dans une autre vie ?
Oui, c'était le cas. Ça faisait à peu près, lorsqu'il est mort, 18 mois qu'il avait une liaison donc avec ce top modèle. Hein. Il avait effectivement l'intention d'aller s'installer avec elle à Los Angeles et de redémarrer d'une certaine façon sa vie et sa carrière auprès d'elle.
De quoi est mort Michel Berger, Yves Bigot ? D'épuisement ? De négligence quant à son état de santé ? Ou de chagrin à cause de son frère et puis aussi de sa fille Pauline ?
Toutes ces choses ont dû participer hein, au stress qui pesait sur lui. Et puis il était déchiré aussi hein, par cet exil en Californie auquel sa vie le conduisait. Mais il est mort de l'affection dont il souffrait depuis longtemps, ses problèmes cardiaques. C'est très paradoxal qu'il soit mort au moment où il réalisait son rêve, la même semaine où Le Monde est Stone, dans sa version anglaise par Cyndi Lauper, rentrait dans les charts en Angleterre. Alors que tout le but de sa vie et de sa carrière était d'avoir du succès dans le monde anglo-saxon.
Yves Bigot, qu'a-t-il amené à la chanson française, Michel Berger ?
Énormément de choses, et ça il l'a fait en compagnie de Véronique Sanson, tellement ce style, ils l'ont inventé et créé ensemble. Grosso modo, comment faire sonner la chanson française comme du rock ? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, oui, doivent beaucoup, beaucoup, beaucoup à Michel Berger et à ce qu'il a changé dans la manière de faire sonner le français, d'une part, et d'autre part, d'apporter du soin aux enregistrements, à la réalisation, à la production de la musique et à leur présentation scénique également, parce que c'était un scénographe très impliqué dans ses spectacles et dans les spectacles de France Gall.
Merci beaucoup Yves Bigot pour votre témoignage passionnant sur Michel Berger. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Philippe Duval à la réalisation. J'ai été ravi de partager cette heure avec vous. J'espère que vous allez bien et que vous gardez le moral. Continuez d'écouter RTL, c'est le meilleur des remèdes. Samedi prochain, 9 mai, je vous raconterai la vie étonnante d'un James Bond, Roger Moore.